France Culture.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Questions du soir, 1h30 de débat, d'analyse, de découverte. À 19h, dans l'actualité des idées, nous recevrons Antonio Sommaini, commissaire de l'exposition Le Monde selon l'IA, qui vient tout juste d'ouvrir ses portes au Jeu de Paume à Paris, l'occasion de s'intéresser aux liens critiques mais aussi parfois organiques entre l'art et l'intelligence artificielle. Mais d'abord, c'est l'heure du débat dans Questions du soir et ce soir, une conversation sur la jeunesse rurale, longtemps qualifiée d'invisible, moins nombreuse que la jeunesse urbaine. La jeunesse rurale focalise moins l'attention publique et lorsqu'elle est représentée, elle apparaît souvent sous l'angle du manque, de la précarité, de la vie agricole, des récits paysans. Pourtant, la jeunesse rurale est plurielle, ses réalités sont complexes et plusieurs récits déconstruisent notre regard, souvent urbain et mal informé sur les réalités de ces conditions de vie quotidienne. Le cinéma en particulier semble s'être emparé de ce sujet avec plusieurs films récents, Vingt Dieux, Leurs enfants après eux, Chien de la casse ou encore La Pampa. Nos fantasmes sur la jeunesse rurale ont-ils disparu? Que reste-t-il de nos préjugés? C'est le débat et la conversation que nous vous proposons ce soir. Et avec nous pour en parler, trois invités. Salomé Berlioux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, fondatrice et directrice de l'association Rura et vous avez co-dirigé récemment avec Félix Assouli le livre « Loin de Paris, raconter les territoires ». C'était en janvier dernier aux éditions de l'Aube. À vos côtés se trouve Antoine Chevrolier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur, scénariste, réalisateur du film « La Pampa » que j'ai cité à l'instant, également de la série « Oussekine ». « La Pampa » qui ne se réfère pas, je le précise pour les auditrices et auditeurs, aux immensités des plaines argentines, mais à un club de motocross dans l'Anjou, il me semble. On y reviendra bien évidemment. Et enfin, Cédric Calandreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes photographe documentaire, enseignant à l'université Paris-Cité en sociologie visuelle. Vous allez publier un livre de photos bientôt en septembre aux éditions Locaux. Un livre qui s'appelle « Le reste du monde n'existe pas » et on reviendra évidemment sur ce titre. Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation aux questions du soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h.
Anthony, c'est ça?
Totone.
Tu sais conduire un camion?
J'ai déjà conduit celui de mon père.
C'est toi le nouveau?
Oui.
T'es en retard? Allez, grouille! Faut pas que ça va foutre!
Adieu! T'es pas doué, toi?
On s'emmerde. Tu veux pas qu'on aille à la plage des Cunus?
Bon, à la base, nous, on était venus pour voir des filles topless, hein.
Pardon?
On va à une soirée ce soir chez un pote à Drimblois.
Si ça vous dit.
Moi, c'est Steph, au fait.
On va pas aller jusqu'à Drimblois en vélo.
Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie.
Ah merde.
Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible.
Ah merde.
Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur.
Ah putain. Enfin, je veux dire, merde.
Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous.
Voilà quelques extraits des films récemment qui ont mis parfois en opposition la ville et la campagne, ou qui ont raconté plutôt des récits de jeunesse rurale, notamment Leurs enfants après eux, adaptation cinématographique du film de Nicolas Mathieu, et le film Vingt Dieux de Louise Courvoisier. Pour commencer cette émission, je souhaitais faire un rapide tour de table, peut-être en commençant par vous, Salomé Berlioux. Comment avez-vous accueilli cette série de films qui parlent de jeunes et de territoires ruraux?
Alors, évidemment, j'ai trouvé ça très intéressant et je les ai vus et aimés chacun à leur façon. Ce que je trouve encore plus intéressant, je crois, c'est que sur ces différents films que vous avez cités et dont on a entendu des extraits, il n'y en a qu'un, en réalité, qui parle de l'agriculture et qui se passe dans cet univers-là.
Qui est vendu.
Exactement. Et qui ça, c'est très significatif par rapport, et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais par rapport justement aux clichés qu'on peut projeter sur à la fois la ruralité et les jeunes habitants de ces territoires-là, parce que, bien sûr, il faut parler des agriculteurs, qui ont des défis particuliers à relever. Et il y a des enfants d'agriculteurs dans ces territoires. Mais les agriculteurs, rappelons-le, c'est 5,7% des actifs dans la ruralité. Ce qui veut dire que la très large, écrasante partie des habitants de ces territoires exercent d'autres professions. Et donc, c'est ce qu'on voit dans les autres films, dont le vôtre, Antoine. On parle de jeunesse et d'amour, de jeunesse et de mobilité, de jeunesse et de violence, de questions, de questions sociales. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on parle de ces territoires pour changer le regard sur
eux. On sort en quelque sorte du prisme paysan et peut-être on pourra revenir sur la manière dont s'est construit ce prisme, cette image épinale d'une ruralité qui serait forcément liée avec le travail agricole. Cédric Calandreau, comment est-ce que vous avez reçu et vu ces films? Est-ce que de la même manière que Salomé Berlioz?
Je suis d'accord avec Salomé, c'est tant mieux que ces films existent. Et moi, ce que je dirais, c'est que...
Cela manquait, selon vous, au cinéma?
Ça manquait, les représentations manquent de manière générale, hein, que ce soit au cinéma, mais en photo ou dans d'autres arts. Ce que j'ai aimé, moi, dans ces films, c'est qu'il y a quand même un regard assez juste qui est ni misérabiliste, ni fantasmé, ni trop populiste. Et donc, c'est vraiment bien.
Antoine Chevrolier, si j'ai rappelé que la Pampa n'était pas en Argentine mais dans l'Anjou, c'est parce que c'est de l'Anjou que vous venez et vous avez dit et raconté en interview que c'était important pour vous de faire un film dans cet endroit-là, c'est-à-dire dans l'endroit où vous avez grandi. Est-ce que vous auriez pu tourner ce film ailleurs et sinon pourquoi est-ce qu'il fallait le faire à cet endroit ?
Il y a différentes phases de quand on écrit un film, qu'on le met en production et qu'on réalise. Il y a un moment donné où il faut se confronter effectivement à la notion de décor, à où on tourne ces films. Et moi, je m'étais pas complètement autorisé à me dire que ça pouvait se passer chez moi. Et en fait, c'est dans les discussions avec Faye Zaghen et Bérénice Bocquillon, les co-scénaristes du film, où elles m'ont dit très simplement, bon, en fait, au bout d'un moment, c'est chez toi que ça se passe, quoi. Mais dans un espèce de rapport très, enfin en tout cas plus ou moins conscient sur est-ce que ces territoires, est-ce que ces endroits en fait doivent être filmés. Alors je m'étais dit qu'on pouvait le tourner à droite, à gauche, et puis au bout d'un moment en fait c'est avéré que j'avais un désir fou de filmer mes rues, les gens que j'aime, et ce terrain de crosse qui effectivement existe bel et bien, qui s'appelle la Pampa.
Qui s'appelle véritablement
la Pampa.
Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est intéressant, lorsqu'on parle de la ruralité, on parle souvent, on la représente, je disais, à partir du manque, c'est-à-dire de l'isolement. Et la Pampa reprend un petit peu cet imaginaire-là, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a absolument rien. Est-ce que, j'imagine, vous avez joué sur ce double sens, mais est-ce que les personnes, par exemple, qui détiennent le motocross La Pampa, là où vous l'avez tourné, ont conscience de ce double sens ?
Oui, en fait c'est très concret, c'est-à-dire que ce motocross il a été appelé la Pampa parce qu'effectivement c'est au milieu, chez moi on dit la Pampa quand c'est au milieu de rien évidemment.
Pas que chez vous, oui.
Voilà, un peu. En tout cas je m'autorise pas à ça.
Ouais,
chez moi on dit ça et donc effectivement le terrain de cross c'est un peu au milieu de champs. Donc en fait ils ont appelé ça la Pampa parce que ça s'appelait la Pampa et donc c'est devenu le terrain de cross de la Pampa et le film qui parle entre guillemets de ce terrain de cross, mais c'est aussi une espèce d'arène qui nous permet de voir un prisme plus large de...
Et on va revenir un peu sur peut-être certaines trajectoires de vos personnages justement, bien évidemment ça ne parle pas que de ce motocross qui est le théâtre dans lequel se croisent les histoires des jeunes que vous racontez. Il y a, et ensuite j'arrête cette interview à Antoine Chevrolier. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes une nouvelle génération de réalisateurs? J'ai parlé de Louise Courvoisier de Vindieu, on peut penser à Jean-Baptiste Durand de Chien de la Casse, même ce sont les frères Boukerma qui ont fait l'adaptation du livre de Nicolas Mathieu. Toutes et tous des personnes qui viennent de territoires ruraux. Est-ce que c'est une nouvelle génération de réalisateurs ou est-ce que ce sont juste des réalisateurs qui désormais s'autorisent à parler de leur lieu ou du lieu où ils ont grandi?
Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Julien Colonna également, qui a fait un film qui s'appelle Le Royaume, qui se passe en
Bien
Corse.
Sûr.
Je pense que c'est plutôt la deuxième option dans le sens où, bon... Le cinéma est un art qui nécessite beaucoup d'argent et qui, le point de vue posé sur nos classes, nos territoires, était entre guillemets accaparé par des gens qui faisaient partie d'une certaine classe. Désormais, grâce à certaines écoles, à certaines trajectoires un peu plus acrobatiques, on a accès Quand je dis on, j'inclus en fait toutes les personnes que vous avez citées. On a accès en fait à financièrement, culturellement, finalement, à la possibilité de raconter nos histoires. Donc je pense qu'en fait tout simplement, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on raconte les territoires, les gens que l'on connaît. Ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je me sentais pas vraiment représenté à travers les films qui représentaient, je mets des guillemets, la ruralité. Aujourd'hui, un film de Louise, le film de Louise ou le film de Julien ou le film de Jean-Baptiste Durand, à un endroit, ils sont tous différents, comme disait Salomé. Ça représente aussi la diversité, la pluralité de ce qu'on appelle la ruralité. Mais je me reconnais un tout petit peu dans, à tous ces endroits-là. Donc je pense que c'est aussi un rapport de justesse et de point de vue juste.
C'est intéressant ce que vous dites, Salomé Berlioux. Quand on parle de la ruralité, on en parle souvent au singulier. D'ailleurs, même le titre de cette émission, c'est « La jeunesse rurale ». Et évidemment, il y a des réalités diverses. Et pourtant, ce que vient de dire Antoine Chevrollier, c'est qu'il y a aussi un vécu commun. Comment s'articule ce point de tension entre la pluralité et ce vécu commun de la ruralité?
Oui, c'est fondamental. Et d'ailleurs, c'est fondamental ce qui est en train d'être dit là, parce qu'un des drames des jeunes ruraux, et je pense qu'il faut le dire de manière vraiment très claire et sans faux semblant, c'est ce manque de figures de représentation. Et dans le milieu du cinéma ou dans l'art, mais en fait dans tous les milieux. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous venez de la ruralité, vous ne vous autorisez pas forcément à avoir des parcours différents de ceux de votre bassin d'emploi, de ce que font vos parents, de ce que font les amis de vos parents, de ce qui existe à côté de chez vous. Et vous n'avez pas forcément de figures de représentation, d'incarnation pour vous ouvrir la voie. Et quand vous arrivez malgré tout, à vous affranchir de votre origine géographique et sociale, voire votre origine de genre et voir le déterminisme de genre quand vous êtes une jeune femme d'un milieu modeste dans la ruralité, quand vous y arrivez, on ne va pas forcément vous questionner sur cet ancrage géographique-là. Je vous donne un exemple concret, on en parlait tout à l'heure avant d'arriver à cette émission. Quelqu'un comme Thomas Pesquet, par exemple, vient d'une commune de 1800 habitants en Normandie, au Frey. Qui le lui demande ? Qui l'invite à raconter ce que c'est que de grandir dans ce genre de petite commune quand on a ses aspirations professionnelles et quand on devient quelqu'un comme lui avec ce type de métier? Et le fait qu'on ne le fasse pas, c'est vraiment très ennuyeux, pour dire le moins, pour les jeunes ruraux, parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se projeter vers ce type de métier, vers ce type d'études, et que cela les empêche. Et en fait, cela les empêche, mais s'il n'y avait que cela, ça ne serait pas grave, entre guillemets. La seule chose, c'est que cela vient s'ajouter au cumul d'obstacles qui limitent la révélation du potentiel de ces jeunes. Et donc, ça va avec ce que vous disiez à l'instant de cette communauté de destin. Vous avez des jeunes qui, évidemment, grandissent dans des territoires très différents. Et moi, d'ailleurs, ça me fait toujours sourire quand un débat commence autour de « oui, mais en fait, il n'existe pas une ruralité, ce sont des ruralités ». Si on entre sur ce terrain-là, on est perdu, entre guillemets, parce qu'effectivement, on passe des heures à définir « oui, mais en fait, c'est différent si vous êtes
disons
sur
la... » c'est le premier étage de l'analyse qui fait perdre un petit peu trop de temps.
Et donc, allons-y. Oui, bien sûr, il y a la Côte Vermeille, bien sûr, il y a l'Allier, il y a le nord de la France. Non, mais c'est pas exactement la question que vous avez posée, d'ailleurs, mais c'est une question qu'on, même dans des conférences, qui peuvent nous occuper pendant des heures. La réalité, quand on parle de jeunesse dans ces territoires-là, c'est que bien sûr, ils vivent dans des territoires différents, ça n'est pas la même météo, ça n'est pas le même bassin d'emploi. Parfois, il y a, je ne sais pas, une ouverture vers l'international parce que c'est à
des
une frontière.
Des industries différentes.
Ouais. Mais il y a cette communauté de destin, exactement, qui est notamment déterminée par une histoire de kilomètres et par l'éloignement kilométrique et symbolique des opportunités. On en parlait à l'instant, des opportunités professionnelles d'études. 7 formations sur 10 aujourd'hui sont situées dans les grandes métropoles. Donc ça veut dire tout simplement qu'un jeune, il doit bouger, mais il doit aussi bouger pour aller chez le médecin, pour accéder à la culture, pour aller à l'école. Et ça, c'est central dans leur quotidien et dans leur avenir aussi.
Alors je vous propose d'écouter une voix, celle de Benoît Coquart, sociologue. Il a publié à la Découverte il y a quelques années « Ce qui reste », livre qui a participé à cette nouvelle réflexion sur la ruralité.
La maison, l'acquérir, c'est prendre une place. Et il y a vraiment des gros enjeux autour de ça. Sur l'accession à la propriété des jeunes ruraux et aussi sur ceux qui se voient de plus en plus prendre de distance vis-à-vis de leur métier salarié, où il n'y a pas une grande perspective d'ascension sociale, on va dire, et ils ont tendance à de moins en moins se contenter de ça, parce qu'il y a des modèles de consommation. Par exemple, on veut une maison, beaucoup des jeunes que je suis, qui sont de milieu ouvrier ou quoi, veulent une piscine dans leur maison, vu qu'ils savent la construire, ils peuvent la creuser, etc. Donc il y a une diffusion en fait de normes bourgeoises dans l'habitat. On veut une grande baie vitrée avec un grand salon ouvert, une cuisine à l'américaine, un intérieur qui claque, comme disent les jeunes, où on peut recevoir. Et tout ça, ça fait que on investit non seulement beaucoup dans la maison, mais aussi on voit la maison comme un mode possible d'enrichissement. C'est-à-dire on se dit, vaut mieux travailler moins, essayer de retaper plein de vieilles maisons, les revendre à éventuellement des Parisiens qui seraient un peu naïfs, quoi, qui viendraient acheter trop cher un bien qu'en vaut moins. Enfin voilà, la bonne poire du Parisien.
La bonne poire du Parisien. Pour rester sur la question de la représentation, parce que Salomé Berlioux, à l'instant, nous parlait des horizons concrets, de carrière, mais aussi des horizons professionnels, des rêves que l'on peut avoir. Là, Benoît Coquart nous parle d'une autre réalité, c'est-à-dire vers qu'est-ce qu'on pourrait thésauriser d'une certaine manière pour survivre dans l'isolement que vous décriviez. Cédric Calandreau, je le rappelle, vous êtes photographe documentaire, je le disais en introduction, vous allez publier un livre, le reste du monde n'existe pas, il sera présenté au Festival de photos d'Arles en juillet. En termes de représentation, comment d'abord vous avez abordé les jeunes que vous avez rencontrés et est-ce que leurs rêves, leurs aspirations qu'ils ont partagées avec vous correspondent à ce que l'on vient d'entendre ?
Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes que j'ai rencontrés, ils ont vraiment bien accueilli le projet. Et ce qui était drôle, souvent, en fait, quand j'arrivais, que je les rencontrais, ils étaient étonnés que je vienne m'intéresser à eux. Ce qui est assez révélateur, je pense, du manque de représentation de cette jeunesse rurale. Et voilà, donc en tout cas, quand on leur propose des projets culturels, des projets artistiques, ils s'en saisissent et même ils sont en demande, je dirais, puisque moi j'ai pu observer ça tout au long de mon projet. Par exemple, au tout début, au bout de quelques mois, j'ai commencé à recevoir en fait des messages via les réseaux sociaux des jeunes qui me demandaient de les photographier. C'était des jeunes que je connaissais pas forcément, mais qui avaient entendu parler de moi dans le coin parce que sur ce territoire, tout se sait très vite. Et ils me demandaient des images. Moi, bien sûr, je me mettais à leur service. Je prenais en quelque sorte le rôle d'un photographe public. C'est comme ça que je l'ai appelé. Comme un photographe un petit peu de baptême ou de mariage. Et on construisait, en fait, les images ensemble. On réfléchissait à où est-ce qu'on pouvait faire la photo, donc au lieu de prise de vue, mais aussi à la pose, etc. On construisait l'image ensemble, on construisait leur représentation ensemble, en fait. Et ça a été hyper important pour moi.
Justement, et quelle représentation est-ce que...
Ils me demandaient, par exemple, des images, ils voulaient, se faire photographier avec leur groupe d'amis, avec leur famille, leur nouvelle moto, au terrain de foot, enfin voilà, dans tous les espaces sociaux qu'on peut imaginer. Mais le plus important, c'était la relation que je construisais avec eux. On faisait des images ensemble et moi, je me mettais à leur service pour faire des images avec et pour eux, surtout.
Antoine Chevrolier, vous avez été bien reçu, vous aussi, lorsque vous êtes arrivé pour tourner votre film ?
Ouais, pardon, super bien. Après, moi, c'est différent. Je suis né là-bas, ma famille est encore là-bas. Donc, en fait, c'était évidemment, ils étaient tous et toutes hyper accueillants. Ils venaient avec les photos de classe de moi quand j'étais petit, qu'ils montraient aux membres de l'équipe, ou ils connaissent évidemment très bien ma maman, très bien mon papa. Donc, c'était très accueillant. Mais ce qui était intéressant, c'était que certains et certaines avaient envie, on sentait un désir de s'approcher autour de ce que pouvait être un tournage. Et puis d'autres, je me souviens très bien avoir été ce qu'on appelle le pré des grilles derrière chez nous. Et en fait, il y avait une bande de jeunes, j'avais été les voir et puis je leur ai proposé, venez si vous voulez jouer dans le film ou travailler sur le film et tout. Et très simplement et très normalement, ils ont dit non, ça nous intéresse pas. Et je sentais pas quelque chose de l'ordre de on est timide ou autre. C'était qu'il y en avait certains que ça intéressait. Et puis il y en avait d'autres qui n'étaient pas du tout dans, pour le coup, le fantasme du cinéma ou autre. Ça ne les intéressait pas. Ils étaient déjà dans un quotidien qui leur convenait. Et donc, mais en grande. Tout le monde nous a hyper bien accueillis, de la mairie aux gens de ma rue.
C'est intéressant ce que nous dit Antoine Chevrolier. On l'entend souvent dans les reportages sur la ruralité, et je mets les guillemets, le « on n'a rien à faire ici, il n'y a rien à faire ». Et là, effectivement, des gens qui n'avaient rien à faire avaient autre chose à faire que d'aller travailler avec Antoine Chevrolier. Qu'est-ce que ça veut dire, Salomé Berlioux ?
Oui, nous, on ressent la même chose avec donc RURA, cette association que j'ai fondée en 2016, qui a accompagné un peu plus de presque 15 000 jeunes depuis lors dans la construction de leur parcours académique, professionnel et citoyen. Et c'est vrai que nous, ce qui est très net, c'est qu'en fait, quand on vient les voir, on essaie de façon non stigmatisante, surtout pas misérabiliste, surtout pas exotisante ou essentialisante, de leur expliquer que ce qu'ils ressentent et ce dont ils nous font part, c'est-à-dire parfois le sentiment d'avoir un champ des possibles si restreint, une espèce d'inconfort, voire de tristesse quand ils envisagent l'avenir, l'impression de voir... par exemple, je vous donne des exemples très concrets, mais forcément aller au lycée professionnel d'à côté, et pourquoi pas ? Pourquoi pas si c'est un choix ? Mais ça n'est pas toujours un choix, de ne pas pouvoir... s'imaginer vivre à l'étranger, par exemple, alors qu'ils en ont tant envie. Et tout ça, en fait, quand on va les voir et qu'on leur explique que non, ça n'est pas de leur fait, ça n'est pas de leur faute, ça n'est pas de la faute de leurs parents, ça n'est pas de la faute de leur village, comme ils le pensaient, mais cela relève, c'est de l'ordre d'inégalité systémique. Ça leur fait une espèce de sentiment de soulagement et même de déclics très souvent psychologiques qui font qu'ils se disent « Ok, alors ça veut dire que je suis capable, ça veut dire que j'ai du potentiel, ça veut dire a fortiori qu'une association comme Rura est là pour m'aider à construire mon parcours avec mon école, avec ma famille, mais de manière peut-être encore plus libératrice que ce à quoi j'avais le droit. » Et là, tout à coup, les yeux s'écarquillent, on voit que l'écoute est autre et ils sont prêts à foncer. Et c'est vrai que ça fait partie des constats qu'on posait déjà avec mon co-auteur des Invisibles de la République, Erki Maillard, lorsqu'on a fait paraître ce livre, qui par un hasard de calendrier apparu pendant la crise, pendant le mouvement des Gilets jaunes, et qui a attiré l'attention, à mon avis, pour ça. C'était une manière, tout à coup, pour les gens de s'intéresser à ces territoires-là par le prisme de la jeunesse. En fait, cette non-prise en compte de cette jeunesse, un jeune Français sur trois vit dans la ruralité. Hein. C'est pas du tout une poignée de filles et de fils d'agriculteurs, encore une fois. C'est 10 millions des moins de 20 ans qui vivent dans les zones rurales et les petites villes et qui font face à cette accumulation d'obstacles, des enjeux économiques. Il y a 80% des milieux modestes qui vivent aujourd'hui en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues. L'autocensure sur le thème de « c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne », l'absence d'opportunités à proximité immédiate de leur domicile. Et tout ça, à minima, c'est corrosif pour le lien social et, dans le pire des cas, c'est explosif à bien des égards. Et c'est tragique sur le plan économique, social et politique.
Salomé Berliou, il y a eu un rapport publié en janvier dernier consacré aux jeunes ruraux pauvres. C'est un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales qui a, et c'est assez étonnant parce que là vous donnez des données, vous donnez des chiffres, vous dites un jeune sur trois vit dans la ruralité. Le rapport souligne le manque de politiques publiques ciblées vers la jeunesse rurale. Il indique ne pas avoir trouvé de travaux récents, je cite le rapport, permettant d'établir le nombre de jeunes sous le seuil de pauvreté selon le lieu de résidence. Et vous vous dites, la ruralité est un exhausteur d'inégalités. Qu'est-ce que ce manque de données raconte, selon vous, Salomé Berliou ? Et puis je vous ferai réagir, Cédric Calandreau.
C'est très simple. Ce qu'on ignore, on le néglige, en fait. Et donc le fait de ne jamais avoir été considérer ces jeunes, de ne jamais avoir cherché à les comprendre, à les compter, à regarder ce qu'ils traversaient réellement sur le plan économique, sur le plan social, à s'interroger sur leurs aspirations, à questionner l'atrophie de leurs rêves, tout ça mène à une situation où effectivement aujourd'hui, si on veut trouver des solutions concrètes, il faut pas y aller, on ne peut pas y aller de manière homéopathique, il faut y aller de façon massive parce qu'on a des décennies de retard. Mais effectivement, nous, c'est un de nos chevaux de bataille chez Rura depuis 2016, c'est de dire il n'y a pas de données. C'est la raison pour laquelle j'avais été missionnée il y a quelques années par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour faire justement un diagnostic sur ce manque de données et des recommandations de politique publique dont certaines sont suivies depuis. Et c'est aussi tout le sens de notre enquête entre l'Institut Terram et Rura il y a quelques mois sur la mobilité sociale et géographique des jeunes ruraux. On a fait émerger des données, j'en donne juste une ou deux. 2h37 dans les transports chaque jour pour les jeunes ruraux, soit trois quarts d'heure de plus que les jeunes urbains. Un exemple. Un deuxième, 528 euros par mois dans leur budget transport versus 307 pour les jeunes urbains. On voit bien que ce sont des chiffres qui interpellent tout de suite et pourtant on ne les connaissait pas jusqu'à présent.
Cédric Calandreau, vous aussi, vous faites émerger des données en sociologie visuelle. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce qu'émerge la donnée à partir de votre travail ?
En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé pendant ces cinq années d'enquête, cinq années de photographie avec des sociologues comme Benoît Coquart, Yael Amsalem Mingui, Clément Reversé. Et c'est en dialoguant avec eux, en leur montrant mes images une fois, enfin assez régulièrement, que j'ai pu comprendre ce que moi j'observais. Et c'est cet échange en fait qui était assez riche. J'ai compris par exemple qu'il existait quand même plusieurs jeunesses rurales ou plusieurs types de jeunes, des jeunes qui vivent très bien leur ruralité, qui vont être très intégrés à leur milieu rural, qui vont faire partie de bandes de potes, de clubs de sport et sont très attachés à leur territoire.
Ce que Benoît Coquart appelle le capital d'autochtonie.
Exactement, qui entretiennent une bonne réputation, etc. Mais j'ai aussi rencontré des jeunes plus vulnérables que j'ai été voir dans les centres sociaux, les missions locales. Pour eux, en fait, il y a une sorte d'isolement social qui vient s'ajouter à l'isolement géographique. Et pour eux, c'est un peu plus difficile. Mais en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de représenter quand même cette jeunesse rurale dans sa complexité.
Ma Pampa, c'est la cité des Courtilières à Pantin dans le 93, courant des années 90. En fait, c'est ma Pampa, c'est-à-dire que je vois très bien de quoi ils parlent quand ils parlent de cette adolescence étriquée, du sentiment qu'on n'en sortira jamais vraiment, de tout le truc de la vie de village. Pour moi, c'est presque une forme de réparation. C'est passer par le cinéma pour donner la chance à une histoire de se raconter autrement et d'être perçue autrement. C'est comme si, pour moi, l'invisibilisation ou la caricature, c'était une forme d'injustice qu'on faisait en fait à ces histoires-là et à ces gens-là. Et d'un coup, t'as la possibilité de leur offrir un espace différent et de donner à voir par le prisme sensible une histoire qui a été un peu maltraitée, ou en tout cas un territoire qui a été un peu maltraité, une histoire qui a été maltraitée dans la manière dont on l'a racontée.
Voilà la voix de Faïs Aghen, votre co-scénariste sur le film La Pampa, Antoine Chevrolier. Faïs Aghen, interviewé par Nora Amadi. D'ailleurs, je vous invite à aller retrouver ce podcast de Nora Amadi sur franceculture.fr. Faïs Aghen qui raconte qu'elle n'a eu aucune difficulté à se représenter votre Pampa parce que, au fond, votre Pampa correspondait à la sienne, qui était la Pampa, une Pampa de banlieue. Et finalement, elle allait au-delà de l'opposition parfois caricaturale qu'on fait entre les jeunes de banlieue et la jeunesse rurale. Les jeunes de banlieue qui seraient dangereux, qui seraient séditieux, et la jeunesse rurale qui serait sage, travailleuse. Elle parle d'une histoire commune de l'abandon. Est-ce que c'est une histoire commune de l'abandon, Antoine Chevrolier ?
Oui, je suis convaincu de ça. Je pense que c'est le même bois qu'on sculpte et qu'on s'évertue à nous faire croire que c'est une peine différente, que c'est une inégalité différente. Mais la violence est sensiblement la même, elle a une autre couleur, elle a une autre saveur, mais à un endroit, l'abandon, la violence étatique, l'abandon politique de ces territoires est la même. Et effectivement, avec Faïsa, enfin, est la même, encore une fois, elle a sa différence, mais à un endroit,
par-delà, en tout cas, les représentations qu'on fait habituellement entre ces deux jeunesses.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus proches que ce qu'on nous donne à voir et ce qu'on nous donne à comprendre. Et c'est là où on s'est retrouvé avec Faïsa. C'est effectivement, on vient de deux territoires complètement différents et on vient de deux violences qui, a priori, peuvent être différentes. Mais il y a quelque chose aussi à l'endroit de la classe qui nous relie, et il y a quelque chose à l'endroit de, encore une fois, de cette violence étatique.
Salomé Berlioux.
Oui, c'est totalement vrai sur le grand nombre de points communs qui rapprochent ces jeunesses, à commencer par les clichés et les projections que l'on fait sur elles, par la dimension économique, par l'autocensure aussi. Hein. C'est pas fait pour moi parce que je viens de banlieue, c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne. C'est très clair chez ces jeunes-là. Et peut-être, et là je remets forcément ma casquette de fondatrice de Rura, la différence que je vois. Alors, il y a des différences dans la nature des obstacles, mais vous le disiez à l'instant.
Par exemple, il y a des traits communs liés à l'emploi. Par exemple, le taux de chômage en banlieue et dans la jeunesse rurale sont plus ou moins les mêmes.
Tout à fait. Donc il y a cette part. Donc il y a vraiment beaucoup de points communs. Et évidemment, c'est ça qu'il faut commencer à dire. Et nous, avec Rura, on travaille depuis le début avec des associations qui sont plutôt positionnées sur l'accompagnement des jeunes de banlieue. Et on partage nos pratiques, on partage nos constats, nos diagnostics, on fait des études ensemble. Donc ça, c'est évidemment majeur. La seule chose, c'est que malgré tout, la question des banlieues, j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire, sans que ce soit suffisant, mais elle est dans le scope des pouvoirs publics depuis plusieurs décennies maintenant, alors que celle des jeunes de la ruralité qui nous réunit aujourd'hui, C'est très récent, ça a quelques années, et en termes d'attention, de compréhension, de travaux de recherche, de représentation, de figures de représentation, on n'a pas trouvé pour l'instant de Jamel Debbouze de la ruralité qui viendrait dire, qui même me suive, et je viens de ce territoire, j'y suis très attachée, et voilà ce qui est possible, et donc c'est aussi ça qui manque, et c'est pour ça, encore une fois, que ce genre de débat est essentiel, et aujourd'hui, en termes de perception, parce que tout ça est pensé encore depuis Paris, regardé depuis Paris, parce que ces jeunes et leurs parents sont coincés entre l'amour est dans le pré ou l'invisibilité, on reste coincé avec des images d'Épinal du type les jeunes ruraux qui mangent des œufs à la coque frais le matin à l'orée d'une forêt. Et alors, je ne parle même pas de la question des jeunes femmes, parce que les jeunes femmes, on est dans une espèce de fantasme Manon des Sources.
On va y venir dans quelques minutes. On va
ne me lancez pas là-dessus.
Si, je vais vous lancer là-dessus, mais je voudrais d'abord relancer Cédric Calandreau là-dessus, le co-auteur de Salomé Berlioux, Félix Assouli, qui ne regarde de l'autre côté de la vitre de ce studio, parle en interview, il dit « La jeunesse rurale est une classe sociale qui s'ignore ». Est-ce que c'est ça, peut-être, au-delà des traits communs, la différence ? La jeunesse rurale est une classe qui s'ignore, Cédric Calandreau ?
Alors, ça, je sais pas, mais je voudrais juste rebondir sur la représentation des jeunes femmes qui, en fait, quand on représente la jeunesse rurale, c'est souvent des jeunes garçons.
Bon, ce que vous voulez y aller, on va y aller tout de suite. Okay.
Désolé, mais moi-même, je l'ai vu parce que dans mon enquête, au bout d'à peu près 2 ans de photos, je me suis aperçu que je photographiais surtout les garçons. Parce que j'étais pris dans des sociabilités masculines, évidemment, mais aussi parce que les jeunes filles et les jeunes femmes en milieu rural sont moins visibles dans l'espace public. Et donc, bien sûr, j'en photographiais, mais je les photographiais surtout parce que c'était les copines d'eux. Donc, pas pour elles, mais parce qu'elles étaient dans l'univers de leurs compagnons. Et donc, j'ai consacré un an et demi de mon enquête aux jeunes femmes en milieu rural. Et donc, voilà, c'est important aussi qu'elles soient représentées.
Alors, à ce propos, je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait du film de La Pampa d'Antoine Chevalier. Et justement, on pourra en reparler juste après.
Qu'est-ce que c'est un briquet ?
Rien.
Merci. Vous avez un truc à dire ?
Hein ? Non, il y a rien.
Ah mais partagez, nous aussi on a très envie de rire.
Non mais laisse tomber, il est trop cool.
Vas-y, dis-lui. Bah, dis-lui, Steven.
Quoi ? Vas-y, mon gars, c'est toi le problème.
Ah, bah les couilles, je lui dis.
C'est toi tu parles, vas-y, parle.
Bah les couilles, okay.
Bah vas-y.
Je sais pas, c'est vrai ce qu'on raconte sur toi ?
Qu'est-ce qu'on raconte sur moi ?
Bah comme quoi tu tapes ton Angers.
C'était ça, je savais pas.
Non mais je sais pas, t'as vu, t'insistes, tu te demandes, donc moi je suis courtois, je te réponds.
Belle phrase de forceur, bravo.
Ouais.
Non mais c'est fou, hein. Chaque fois que je reviens à Longueuil, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là.
Oh, ça va.
Bah oui, entre les rumeurs, les réputations, personne se mêle de son cul ici, c'est un truc de fou.
Ouais, vraiment, c'est chaud.
Ouais, bah tu sais quoi, t'avais qu'à rester en jeu, en fait.
Ah mais t'inquiète, j'ai pas l'intention de rester ici.
Voilà pour le deuxième extrait de votre film La Pampa, Antoine Chevrolier. C'est vrai que c'est peut-être encore un sujet de cinéma manquant. Chien de la casse, Vin Dieu, votre film, sont centrés avant tout sur des trajectoires masculines. Est-ce que les jeunes filles sont encore à l'ombre de nos représentations ?
Nous, la question, elle s'est évidemment posée dès le début. Il s'avère que on a décidé avec Bérénice et Feïsa d'utiliser cette amitié masculine et donc cet univers testostéroné mascu pour justement essayer de pointer du doigt ce qui ne fonctionnait pas sur la représentation féminine et sur les violences patriarcales. Maintenant, c'est certain qu'il y a un vide. C'est certain qu'il y a un vide de représentation et je suis certain que des réalisatrices vont s'en emparer. C'est ça.
Il y a autre chose qu'on entend dans l'extrait, c'est l'importance de la réputation. D'ailleurs, la réputation, sans vouloir révéler la trame de votre film, va décider d'une certaine manière du destin de vos personnages.
Oui, parce qu'en fait, vivre dans ce genre de petite ville ou de village, c'est aussi se confronter au manque d'anonymat et donc à la réputation. C'est quelque chose en fait de vivre depuis sa naissance dans un endroit où tout le monde connaît absolument tout de tes parents, tes grands-parents, à ta trajectoire. C'est quelque chose. Donc en fait, quitter cet anonymat, c'est aussi d'une certaine manière de lancer le geste de l'autorisation de devenir ce que l'on doit être. Et c'est ce que traduit Marina à sa manière, mais elle s'autorise ce mouvement parce qu'elle vient aussi d'une certaine classe. C'est ce que montre un tout petit peu le film, c'est que c'est beaucoup, je crois, lié, encore une fois, c'est tout ça, beaucoup une histoire de classe, quoi.
Mais certains n'arrivent pas à s'échapper, n'arrivent pas à devenir ce qu'ils doivent être.
Tout à fait, parce que c'est dur, en fait. Non, mais vraiment, c'est dur. Enfin, c'est dur de s'autoriser à pouvoir se dire, voilà, ma trajectoire de jeune femme ou ma trajectoire de jeune homme, ça va être ça. Ça veut dire aller voir ses parents, ça veut dire avoir ses amis, ça veut dire se désolidariser d'une certaine manière.
Salomé Berlioz.
Oui, on est aux prises avec des conflits de loyauté qui peuvent être très forts et cet enjeu de la réputation et de la manière dont... Alors, bon, c'est pas typiquement rural, hein, le fait d'être enfermé dans des cases, tout le monde le fait de
c'est
manière...
C'est peut-être le trait commun de la jeunesse
exactement,
universelle.
Exactement, et donc, mais ce qui est vrai, c'est que dans un village de quelques centaines ou quelques milliers d'habitants, ça peut être lourd de conséquences. Moi, j'ai grandi dans l'Allier, j'y retourne ce soir, d'ailleurs, après cette émission. Et effectivement, l'enjeu de la réputation, je pense notamment au collège et la façon dont ça vous marque durablement, que vous fassiez un faux pas, que vous preniez une décision et c'est parti pour des mois ou des années. Et de manière plus dramatique peut-être, quand on pense aux violences faites aux femmes, 50% des féminicides ont lieu dans la ruralité alors que 30% des femmes y vivent. Et ça, ça se fait à bas bruit et en fait on le comprend très bien quand vous parlez d'anonymat. C'est vrai qu'aller porter plainte pour une femme c'est compliqué, même dans un commissariat où on ne connaît personne, mais quand la personne auprès de qui on va porter plainte joue au football avec son mari le week-end, c'est forcément d'autant plus difficile. Et ça, on en parle encore peu, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs.
Et alors, pour ceux qui n'arrivent pas à assumer leur trajectoire au sein de leur communauté, il y a un choix qui s'impose, un choix que l'on retrouve beaucoup à la fois dans les films, comme une promesse de départ, que l'on retrouve beaucoup dans les reportages, c'est celui de partir ou rester. Il nous reste 2 minutes d'émission, alors je vous les offre, Cédric Calandreau. Est-ce que partir ou rester, c'est le dilemme des jeunes auprès desquels vous avez fait votre travail photographique?
Moi, je me suis intéressé à ceux qui restent ou ceux qui vont être amenés à rester. Donc, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre à cette question.
Au contraire, peut-être qu'ils s'étaient posé la question et avaient décidé de rester. Mais est-ce que c'est une question qui traverse
Je pense que c'est une question qui est là en creux, mais ils ne se la posent pas comme ça, forcément.
Mmh. Antoine Chevrolet, vous avez décidé de partir.
Je décide de partir, mais parce que ce que je souhaitais était ne pouvait pas fonctionner dans ce village-là. Moi, je voulais raconter des histoires avec des images. Donc, en fait, par la force des choses, il fallait que je m'extraie de. Mais à aucun moment j'ai regardé ce territoire et les gens qui l'habitent avec du surplomb. Et j'espère que le film juste.
Enfin, non, mais vos personnages se disent. Tiens, je te le promets, on va partir d'ici.
Ouais,
mais se casser.
Oui, mais parce que c'est une espèce de promesse de vie aussi. C'est quelque chose de lié à l'aventure. Certains y arrivent, tant mieux. Et ceux qui n'y arrivent pas, ça n'est pas si grave que ça.
C'est un dilemme, partir ou rester.
La question, en fait, pour ces jeunes est celle du choix. Je trouve que c'est comme ça qu'il faut se la poser. C'est-à-dire qu'ils puissent faire leur choix d'orientation, leur choix professionnel, leur choix de citoyen. Si c'est au sein de leur territoire, très bien. Et s'ils sont libres au sein de leur territoire de s'exprimer, de faire des choses, de travailler, de choisir combien d'argent ils ont envie de gagner, parfait. Si pour se réaliser, si pour mener la carrière dont ils ont envie, ils doivent partir, il faut que cela leur soit possible sans que leur territoire, leurs parents, les élus, fassent peser sur eux une responsabilité supplémentaire, une injonction supplémentaire qui serait « reste chez toi, tu y es assigné et tu ne peux ou tu ne dois te réaliser qu'ici ». Et cette question du choix, elle est centrale et elle est loin d'être réalisée aujourd'hui en réalité.
Voilà, peut-être du soutien, c'est avant tout ce dont a besoin la jeunesse rurale et pas que la jeunesse rurale. Merci à vous trois pour cet échange passionnant. Salomé Berlioz, je le rappelle, merci fondatrice et directrice de l'association Rura, co-directrice, autrice avec Félix Assouli du livre « Loin de Paris, raconter les territoires » aux éditions de l'Aube. Antoine Chevrolier, réalisateur scénariste du film « La Pampa » et Cédric Calandreau, photographe documentaire, enseignant à l'université Paris-Cité en sociologie visuelle. On regardera votre livre « Le reste du monde n'existe pas » aux éditions locaux. Merci également à Mathias Mégy pour la préparation de cette émission. Il est bientôt 19h sur France Culture. Restez à l'écoute. Nous, on se retrouve dans quelques minutes seulement après le Point Info pour la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée aux liens critiques mais aussi parfois organiques entre l'art et l'intelligence artificielle.